Matuidi, good ball, Giroud, helped on here, and Mbappe's got another one! 4-2, and now France really are in control.
Le podcast de Chronique Bleue, numéro 2, les voyages de l'équipe de France, par Bruno Colombari.
Bonjour. Le 28 mars 2021, l'équipe de France joue son premier match à l'extérieur en phase qualificative de la Coupe du Monde. La route du Qatar passera notamment par Nur-Sultan, c'est la capitale du Kazakhstan. Si le nom de Nur-Sultan ne vous dit rien, celui d'Astana vous est sûrement plus familier. C'est celui d'une équipe cycliste qui a défrayé la chronique depuis 2007 et remporté deux Tours de France avec Alberto Contador en 2009 et Vincenzo Nibali en 2014. Nur-Sultan et Astana, c'est la même chose. Il faut dire que la capitale kazakh change de nom aussi souvent que Valdemar Kita change d'entraîneur. Elle s'est d'abord appelée Akmolinsk, puis Tselinograd en 1961, puis Akmola lors de l'indépendance du Kazakhstan en 1991, puis Astana en 1998. Enfin, en mars 2019, elle est rebaptisée Nur-Sultan en hommage au président démissionnaire Nazarbayev, dont c'est le prénom. Mais c'est surtout la destination la plus lointaine de l'équipe de France, dans le cadre de la zone Europe, puisqu'elle se trouve à 4760 km à vol d'oiseau de Paris. En réalité, c'est une ville d'Asie centrale. Elle se situe au nord du Pakistan et à 600 km seulement de la frontière occidentale de la Chine. Son climat est particulièrement froid. Parmi toutes les capitales du monde, seule Oulan-Bator en Mongolie est plus froide. Fin mars, il peut encore y faire des températures largement négatives. Son stade, l'Astana Arena, est couvert par une verrière rétractable et doté d'une pelouse synthétique. Il a été inauguré en 2009 et il compte 30 000 places. Nur-Sultan est la 182e destination des Bleus depuis 1904 et la 147e hors de la métropole. Voici l'histoire de ses horizons lointains. Le tout premier match de l'équipe de France, le 1er mai 1904, c'était déjà un déplacement. Certes court, mais à l'époque, pour aller de Paris à Bruxelles, il fallait prendre un train de nuit qui mettait près de 6 heures pour parcourir les 265 km. Le rassemblement de la sélection avait d'ailleurs lieu à la gare du Nord, et les 11 premiers internationaux de l'histoire, tous parisiens, ont été rejoints à Bruxelles par l'attaquant de Tourcoing, Adrien Filet. 4 ans plus tard, comme le raconte Raphaël Perry dans son article intitulé « L'épopée des voyages bleus », la distance s'allonge. L'équipe de France a cette fois rendez-vous au buffet de la gare de Lyon, avant un départ à 21h pour Genève, où ils arrivent à 8h du matin le dimanche. Précisons que le coup d'envoi a lieu à 13h. Quelques semaines plus tard, c'est la Manche qui est traversée en bateau de Calais à Douvres, puis un train jusqu'à Londres pour le premier Angleterre-France de l'histoire. Il sera d'ailleurs perdu 12-0, les tricolores alignant comme gardien André Renault pour remplacer au pied levé Zachary Baton, le titulaire, indisponible, et son remplaçant Maurice Stillette, qui était blessé. Les déplacements en Italie s'apparentaient à des road movies de l'extrême. Il fallait 15 heures de train en 1910 et 1912 pour aller de Paris à Milan ou à Turin. Mais le record pour un Italie-France, il date de 1920. Presque 40 heures, avec une cascade de tuiles sur le trajet, des cheminots en grève, travaux sur la ligne, la correspondance manquée à Genève, et arrivé à Milan 90 minutes avant le début du match. Résultat, victoire italienne 9-4. En juin 1922, destination la Norvège, rejoint en bateau à Stavanger après 48 heures de navigation sur une mer du Nord houleuse. Puis le train est retardé par la neige pour rejoindre la capitale Christiania, qui s'appelle aujourd'hui Oslo, où l'équipe de France perd 7-0 contre la Norvège. Un voyage mouvementé pour rien, puisque la FFF ne reconnaît pas le match comme officiel. L'Europe centrale, à savoir Budapest, Bucarest, Belgrade ou Sofia, avait un petit air d'Orient Express, que l'équipe de France a d'ailleurs utilisé dans les années 1920. Mais il ne fallait pas être pressé. En juin 1932, les Français vont à Belgrade en 36 heures, en passant par Strasbourg, Munich et Vienne, puis se retrouvent à Sofia et prennent un tortillard qui mettra 25 heures pour les amener à Bucarest. Deux mois plus tôt, pour un déplacement normalement sans histoire en Suisse, Manuel Anatole, Ernest Liberati, Jean et Lucien Laurent descendent du train sur le quai de Belfort pour prendre l'air avec leur sélectionneur Gaston Barrault. Mauvaise idée, le train repart sans eux. Ils rejoignent alors Berne en taxi, alors que le reste de la délégation passe la frontière sans passeport, et pour cause, Gaston Barrault les avait gardés sur lui. Les déplacements en train étaient tellement longs qu'il fallait bien s'occuper. En février 1930, l'équipe de France embarque à la gare d'Orsay, direction le Portugal, via l'Espagne. Avant de passer la frontière portugaise, les joueurs achètent des oranges à un paysan qui leur vend en prime une petite chèvre noire. Le gardien de but français, Antonio Lozès, s'occupe de l'animal et lui donne même le biberon pendant le reste du voyage. La chèvre suivra la première mi-temps de Portugal-France attachée au but de Lozès et la deuxième en tribune officielle aux côtés du président de la FIFA, Jules Rimet. Mais le premier vrai grand voyage, celui qui va marquer une étape décisive dans l'histoire de l'équipe de France, c'est évidemment la traversée transatlantique de l'été 1930. L'Uruguay organise la première Coupe du Monde et les sélections européennes se défilent l'une après l'autre. Après beaucoup d'hésitations, la France se décide à y aller avec la Belgique, la Roumanie et la Yougoslavie. Pierre Casals a raconté sur Chronique Bleue les circonstances de ce périple qui allait durer 15 jours de Villefranche-sur-Mer à Montevideo, avec escale à Barcelone et Rio, à bord du Conte Verde. La délégation française avait seulement 15 joueurs, le dirigeant Jacques Caudron, le masseur Raphaël Panosetti et l'arbitre Georges Balvé. Elle est partie sans son sélectionneur Gaston Barrault, mais avec le président de la FFF et de la FIFA, Jules Rimet, qui transportait dans ses bagages le trophée de la Coupe du Monde. Le retour se fera par le transatlantique La Duilio, avec des escales à Sao Paulo et Rio, où les Français joueront des matchs non officiels contre des équipes brésiliennes. Il faudra attendre les premiers jours de paix au printemps 1945 pour voir l'équipe de France monter dans un avion pour la première fois. C'était pour jouer à Londres contre l'Angleterre, devant le général Koenig à Wembley. Le 25 mai 1945, les Français prennent un avion de la Royal Air Force au Bourget, et atterrissent à l'aérodrome de Croydon. Fini les traversées de la Manche en bateau. Mais, comme le raconte Raphaël Péri, le premier vol aurait pu avoir lieu bien plus tôt, en mars 1919, pour un court déplacement entre Paris et Bruxelles. Les joueurs français devaient embarquer à bord de quatre biplans voisins. Mais le mauvais temps les incite à prendre le train et à laisser leur place aux officiels, aux journalistes et aux photographes. Les déplacements d'après-guerre sont logiquement de plus en plus lointains, rendus possibles par l'avion. Dans les années 50, les Français vont en Écosse, en Irlande, en Suède, en URSS, en Islande et en Finlande. Mais en 1949, le crash aérien de Superga près de Turin, qui coûte la ville à Émile Bongiorni, et celui des Açores, dans lequel meurt Marcel Cerdan, inquiètent de nombreux joueurs, comme le milieu de terrain du Racing, Roger Gabbé, qui refuse de prendre l'avion. L'année suivante, c'est une des explications possibles au forfait de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 1950 au Brésil. Début juin, le président de la FFF, Emmanuel Gambardella, se plaint officiellement du fait que les deux matchs du premier tour contre la Bolivie et l'Uruguay sont distants de 3500 km, entre Porto Alegre au sud et Recife au nord. Un ultimatum est posé au comité d'organisation et le 5 juin, faute de réponse, le bureau de la FFF vote le forfait par 6 voix sur 11. Une majorité de joueurs était pourtant favorable au voyage, mais personne ne leur a demandé leur avis. Les défaites en amicales contre l'Écosse et la Belgique ont sans doute réactivé chez les dirigeants fédéraux la peur du ridicule. Dommage. Il faudra attendre les années 70 pour voir l'équipe de France retourner en Amérique du Sud. En janvier 71, elle joue deux matchs amicaux contre l'Argentine. Puis à l'été 72, elle dispute la Coupe de l'Indépendance au Brésil et y retourne en 77 avec un fameux match au Maracanã. En 78, les Bleus prendront le Concorde pour jouer la Coupe du Monde en Argentine. Ils font une escale à Dakar pour un vol de 7 heures, soit une durée du voyage divisée par 45 depuis 1930. En mai 79, ils vont à New York rencontrer les USA au Giant Stadium. Les années 80 seront plus calmes, avec seulement un premier voyage en Asie, en l'occurrence à Tel Aviv contre Israël, qui est intégré à la zone Europe. Pour l'Afrique, ce sera 10 ans plus tard, au Maroc en 1998, avec entre-temps le premier déplacement en Extrême-Orient, au Japon, en 1994. C'est dans les années 2000 que les tout nouveaux champions du monde et d'Europe vont se transformer en Harlem Globetrotters, avec des voyages en Afrique du Sud en 2000, en Corée du Sud, Japon, Chili et Australie en 2001, en Tunisie et encore en Corée du Sud en 2002. Mais la plupart du temps, ce sont des voyages éclairs, un peu comme ceux des chefs d'État, avec des séjours plus courts que le temps du vol aller-retour. Le plus polémique est celui qui les amène à Melbourne en Australie en novembre 2001, qui reste à ce jour le plus long déplacement de leur histoire, à près de 17 000 km de la métropole. 2 mois après les attentats du 11 septembre, la FFF a affrété un Boeing 747 spécialement aménagé, avec une salle de massage et une salle de jeu pour les 20 joueurs et la trentaine de personnes de la délégation qui les accompagnent. Il y en a pour 6 millions de francs, environ 1 million d'euros, et 50 heures de vol pour un nul en amical contre l'Australie, oublié à peine joué. La plus grosse frayeur en avion, les joueurs de l'équipe de France vont la vivre le 13 octobre 2007 pour un déplacement a priori sans histoire aux îles Féroé. La veille, leur avion avait dû se poser à Aberdeen, en Écosse, puis à Bergen, en Norvège, car le brouillard, le vent et la pluie givrante rendaient l'atterrissage impossible. Quand ils finissent par approcher de l'aéroport de Torshavn, à 4 heures du coup d'envoi, le brouillard est encore épais et le pilote doit naviguer en manuel entre les montagnes de l'île. L'avion penche dangereusement sur une aile pour éviter les parois rocheuses et il se redresse au dernier moment avant de se poser à l'arrache sur le tarmac. Il faut croire qu'un peu d'adrénaline ne fait pas de mal, car les hommes de Domenech marquent 2 buts dans les 8 premières minutes et l'emportent 6-0. Parmi les endroits inexplorés du globe, il restait au bleu à découvrir les Antilles en novembre 2005, et la Réunion, en juin 2010, et de suivre les traces de Michel Strogoff dans les steppes russes. Ils franchissent l'Oural en juin 2018, lors de la Coupe du Monde pour découvrir Yekaterinbourg, la plus lointaine destination de leur histoire dans la zone Europe, jusqu'au déplacement au Kazakhstan de mars 2021. Voilà, vous pouvez retrouver sur chroniquebleu.fr les articles qui m'ont servi à écrire ce podcast, l'épopée des voyages bleus, et le jour où une chèvre a supplanté le coq, de Raphaël Péri, sélectionneur des Bleus, les bonus, Jacques Caudron, de Pierre Casal, Datavis, les déplacements des Bleus à l'étranger, de Hugo Colombari. À bientôt. France is ready to rise as one.
Perisic. Comfortable gallop for Hugo Lloris, a catch that may win the match. Ready, ready boys, here comes your moment. It is France, Allez les Bleus! All rise to another class of gilded Gallic greats. The dignitaries meet. The Deschamps double is complete. In 1998, he lifted it. 20 years on, he will see it lifted for him. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. from Boulogne to Biarritz, Calais to Cannes, Cherbourg to Chamonix.